Bonjour tout le monde, bon mardi matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez pouvoir passer la matinée avec moi. Beaucoup de choses à discuter comme d'habitude, puis j'ai envie de tout de suite d'entrée de jeu vous poser cette question parce que après l'entrevue qu'on a fait hier avec le docteur François Marquis, puis vous avez été nombreux à réagir et à discuter, on a discuté ensemble de encore une fois là, de l'organisation de notre 24, en fait du 24 au 27, vous le savez, je vous le rappelle, Québec permet pour le moment deux rassemblements, 10 personnes maximum, donc les gens de votre bulle, puis selon que votre bulle soit plus ou moins grande, ben c'est 10 max. Alors, en même temps, on sait que de plus en plus de gens s'organisent malgré tout et font fi un peu des règles sanitaires en disant, voilà, on est un petit peu à bout, ça fait des mois qu'on vit ça, c'est pas parce qu'on va se rencontrer en famille qu'on va se mettre à risque. Cette façon de penser est devenue un peu plus généralisée. Je vous dirais d'abord, je vous lis, vous me l'écrivez, vous me le dites. Et je pense que faire fi de ça, c'est-à-dire de l'état d'esprit des Québécois, c'est peut-être de se mettre un peu la tête dans le sable. Et donc, hier, on discutait du fait que peut-être, il serait le moment de changer de stratégie, de laisser tomber l'espèce d'objectif du 1000 en disant « oui, on souhaite que ça baisse le nombre de cas, mais en ce moment, c'est pas ça. Il ne baisse pas le nombre de cas, il est stable et même au cours des derniers jours, on a vu du 1300, 1400, presque du 1500 cas. » Donc, ça baisse pas. On essayait d'expliquer hier les raisons. On nous a dit, le docteur Marquis disait, c'est toute une suite de petits débordements ici et là, hein, c'est jamais qu'un seul facteur. Mais peut-être qu'une stratégie renouvelé, qui fera en sorte qu'on accepte un peu plus les rassemblements et qu'on se prépare, là, au lieu de focusser sur le 24, qu'on se prépare plutôt peut-être à l'arrivée d'une troisième vague en janvier. Ça serait peut-être ça l'attitude. Alors, c'est un peu l'hypothèse que j'avais envie de discuter avec vous. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'elle est réaliste ou non? Je vais en discuter avec le docteur Carl Weiss, qui justement ce matin a comme un peu ouvert la porte en entrevue avec mon collègue Paul Arcand également là-dessus. Bonjour, docteur Weiss.
Bonjour, Madame Maréchal.
Je rappelle que vous êtes microbiologiste, que vous êtes spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal et que vous êtes également président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec. C'est un peu ça, finalement, Dr Weiss. On sait que, de toute façon, on va payer le prix en janvier. Hein? Alors, que doit-on faire à ce moment-là? Je sais que vous voulez pas forcément parler à la place du gouvernement, mais si on s'y mettait un peu, là, si on faisait cet effort-là, puis si on essayait de voir quelles sont les autres stratégies, quelles sont les autres hypothèses, à part celles qu'on a émises pour le moment, puis qui ne semblent pas rentrer dans la tête des gens complètement, comment vous voyez ça, vous, Dr Weiss?
Bon, ben d'abord, comme vous dites, je ne parle vraiment pas pour le gouvernement, donc je sais. Alors, ça, c'est la première chose à souligner. La deuxième chose, c'est que c'est un choix de société. C'est-à-dire que est-ce qu'on décide, comme on l'a fait, puis il faut savoir que le message gouvernemental a été modifié depuis le début, puisqu'en premier lieu, on nous a dit « on se réunit », après ça, on nous a dit ben, « finalement, c'est seulement deux réunions », et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un site qui est associé à tout ça, qui dit qu'il faut qu'on arrive à maintenir un certain, je vous dirais, contrôle de la situation pour pouvoir avoir ces réunions-là. Parce qu'il est clair que si le nombre de cas, par exemple, dépassait les 2000, on va donner un chiffre, disons, au hasard, mais certainement à 2000, et une augmentation du nombre de cas, ou si, par exemple, il y avait une augmentation du nombre de cas très important dans un groupe d'âge qui est très à risque, ouais, donc les gens de plus de 70 ans, il est fort possible que toute cette stratégie-là tombe à l'eau rapidement. Donc, on est dans une situation hypothétique pour l'instant, de dire qu'on va se réunir entre le 24 et le 27. Dans un deuxième temps, il faut comprendre que nous allons de toute façon payer un prix au mois de janvier, parce que le mois de janvier est toujours difficile pour les infections respiratoires. On le sait, chaque année, durant la saison de la grippe, durant l'influenza, on voit les urgences déborder au Québec. Cette année, il va y avoir, je vous dirais, une addition à ce qu'on a habituellement, puisqu'on aura beaucoup de nos, entre guillemets, snowbirds qui vont rester au Québec, donc qui vont potentiellement consommer des soins de santé pour toutes sortes de raisons. Et par rapport à ça, même si on a moins d'influenza, on va avoir des infections respiratoires, de la COVID, à une époque où le système est fragilisé. Donc, il faut se dire, à partir du mois de janvier, parce que tout est dans le système de santé et sa résilience à accepter des cas. Hein, on a compris que ce qui détermine la stratégie de la COVID, c'est de savoir quel nombre de patients on peut hospitaliser, combien de patients peuvent aller aux soins intensifs, bien sûr, malheureusement, les décès, et aussi si on décide de mettre tous nos œufs dans le même panier, en l'occurrence de traiter uniquement des cas de COVID, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive à tout le reste de la médecine, donc la chirurgie, l'oncologie, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de se dire, quelle stratégie aura-t-on en place au mois de janvier pour pouvoir augmenter la capacité du système de résister? Les dépistages, les tests rapides, plus de personnel, préparer des unités, etc., etc. En sachant que au niveau de la population au Québec, même si 85% des gens sont très compliants, très observants et respectent les consignes gouvernementales à la lettre, il suffit que vous ayez 15% de la population qui les respecte, on va dire plus ou moins. Hein. Mais 15%, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup en nombre absolu parce que 15% du Québec, c'est à peu près 1 300 000 personnes. Donc 1 300 000 personnes, même si vous avez 1% de ces gens-là ou 2% de ces gens-là qui finissent par attraper la COVID durant cette période-là, ben on parle de quelque chose entre 13 et 25 000, 26 000 personnes. Donc ça fait pas beaucoup de monde sur l'ensemble de la population du Québec, mais ça fait beaucoup de monde pour un système de santé qui est tiré à l'extrême.
Mais en même temps, vous dites, bon, quelle stratégie aura-t-on choisi en janvier si dans le fond, l'hypothèse, c'est de dire, au lieu de mettre toute notre énergie à essayer de voir comment on peut gérer le 24, du 24 au 27, les rassemblements, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un avantage à se préparer d'ores et déjà, puis à dire, OK, la stratégie, là, arrêtons de parler du 24 dans les conférences de presse, puis il y en a d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y en aura une encore aujourd'hui à 13h du premier ministre et du ministre de la Santé avec le docteur Arruda. Mais essayons de voir plutôt comment on va gérer l'après. Et j'entends pas ça pour le moment, là. J'entends beaucoup de médecins comme vous qui nous préviennent, les urgentologues également, les urgentistes, certains autres experts, les psychiatres, tout le monde un peu sonne l'alarme pour dire attention, en janvier, ça va être quelque chose. Donc, est-ce que, moi, j'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps, là, à essayer de voir comment, combien on va être autour de la dinde le 24, puis peut-être pas assez encore à se demander comment organiser le système pour que cette année, il soit un peu plus capable de répondre à ce trop-plein qui est de toute façon chaque année. C'est le cas. L'année dernière, j'ai vérifié, là, c'était 123% le débordement dans les urgences au Québec. L'année d'avant, c'était 118. Donc, c'est sûr que ça déborde. Ça déborde toujours, Dr Weiss.
Toujours. Vous avez totalement raison. On le sait, hein, chaque année, on voit le débordement et pour plein de raisons différentes. Cette année, il y a peu de chances que ce soit différent, ouais. Avec la différence que cette année, on va avoir un débordement particulier. Alors là, il faut se dire aussi qu'est-ce qui se passe, parce qu'on a de notre côté l'arrivée des vaccins, dont nous avons à peu près 6 mois pour régler le problème de la vaccination au Québec. Donc, on va se dire qu'il y a de grandes chances qu'au mois de juin 2021, on soit pas mal sorti du bois, mais il faut définitivement se préparer au mois de janvier, qui va être un mois difficile pour plein de raisons. Comme vous l'avez mentionné, il faut qu'on ait des ressources, la capacité de tester dans les hôpitaux actuellement par la méthode traditionnelle. Je vous dirais que le système en place est déjà un bon système. Il va falloir définitivement augmenter la capacité au niveau des tests rapides, des tests antigéniques, même s'ils ne sont pas parfaits. Mais dans le contexte, il faut vraiment faire flèche de tout bois pour pouvoir contrer ce genre de problème. Il ne faut pas oublier non plus que la majorité des patients lourds, des patients hospitalisés, des décès, surviennent dans la catégorie des plus de 70 ans. Et actuellement, même si le nombre de ces gens-là n'est pas très élevé au Québec dans les nouveaux cas, c'est un groupe où il y a une augmentation du nombre de cas, et c'est un groupe qui est beaucoup plus vulnérable à utiliser des ressources de santé que les autres. Mmh. Alors, il faut aussi se préparer par rapport à ça, puis vous avez raison dans le sens que il faut avoir des capacités au mois de janvier pour absorber le trop-plein. Et les capacités, il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste l'hôpital, parce qu'on parle beaucoup des lits, de l'hospitalisation, des soins intensifs. Les capacités, c'est aussi l'accès aux médecins de famille, c'est l'accès aux cliniques de médecins de famille qui peuvent aussi enlever beaucoup de pression du système parce qu'on n'a pas besoin de voir tous ces gens-là dans les urgences. On n'a pas besoin de voir tous ces gens-là dans les hôpitaux. Donc, il y a tout l'aspect de l'organisation de sites non traditionnels, comme on avait fait pour le H1N1, par exemple, pour évaluer bon nombre de gens qui n'ont pas forcément besoin de la lourde infrastructure du système hospitalier tel quel.
Mmh. Mais si on est si inquiet, alors pourquoi ne pas d'ores et déjà dire aux Québécois, regardez, déjà qu'on l'a modifié, là, ce qu'on avait annoncé, pourquoi ne pas dire aujourd'hui, il n'y en aura pas de rassemblement à Noël?
Ben là, c'est une décision qui n'est pas une décision scientifique, c'est une décision qui est une décision sociétale.
Mais basée sur l'expérience scientifique, en tout cas sur l'hypothèse scientifique.
Oui, mais la science n'est pas absolument parfaite là-dedans. Ce sont des modèles. C'est un risque. Est-ce que, par exemple, de permettre à quelqu'un qui a un cancer métastatique et à qui il reste peut-être 3 mois à vivre et qui a 85 ans, de pouvoir vivre son dernier Noël en présence de ses enfants, est-ce que c'est quelque chose dont on devrait tenir compte? Alors, la médecine, c'est de la science, mais il y a aussi un côté social et un côté sociétal. Et donc, il faut tenir compte de tout ça. Il y a un concept holistique à avoir dans une approche médicale. Alors, d'un point de vue purement technique, oui, en effet, il y a une certaine difficulté, je vous dirais, à dire on veut avoir tout ce qu'on veut, mais d'un autre côté, l'alternative, c'est de complètement fermer la société. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne au Québec. Il y a des régions où c'est, je dirais, plutôt mal. On a vu que le Saguenay, proportionnellement, ça va pas très bien. Il y a certaines régions qui sont plus sous pression. La région métropolitaine de Montréal, même si les cas ont augmenté, est relativement, je vous dirais, pas si mal, surtout si on la compare à ce qui s'est passé durant la première vague. Alors, il y a aussi un aspect de voir comment les gens peuvent essayer de faire attention d'une région à l'autre. Mais c'est pas compliqué. La solution est entre les mains de la population. C'est à nous, en termes de société, de décider si on veut mettre le maximum de notre côté pour minimiser l'impact d'un risque qui n'est pas zéro. En d'autres mots, si vous mettez toutes les barrières, on va être clair là-dessus, il n'y a aucune barrière qui, prise isolément, va réduire le risque de façon significative. Mais si vous ajoutez toutes les barrières, comme on a sorti les enfants de l'école plus tôt, on minimise ses contacts une semaine avant une réunion, on minimise ses contacts lors de ces rencontres-là, on s'assure que personne n'est malade, on essaie de garder une certaine distanciation peut-être avec les personnes plus âgées, on ne va pas leur donner des gros becs mouillés pour que les petits-enfants aillent voir les grands-parents. On essaie, si vous voulez, de garder tout cet aspect-là. On s'assure aussi qu'on n'exagère pas dans nos rencontres. Puis on s'isole après ça pour justement, lorsque les gens reviennent à l'école, au travail, qu'on essaie de minimiser encore l'impact. Et on porte le masque le plus possible à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, c'est un ensemble de mesures. Il n'y en a aucune qui est parfaite, mais si vous les additionnez, vous allez essayer de mettre un filet de sécurité maximal. Le risque zéro n'existe pas. Le risque minimal, c'est d'enfermer tout le monde à la maison et de dire à tout le monde, vous allez nulle part. À ce moment-là, est-ce que tout le monde va suivre les consignes et est-ce qu'on sera capable d'appliquer ces consignes et de s'assurer qu'elles soient respectées? C'est une question qu'il faut poser au gouvernement.
Ouais. Et aussi aux gens, puis je vais leur poser, mais je pense que déjà, on sait que ça n'arrivera pas. Les gens sont en train, il y en a même qui le font dans le dos. Ils sont consciemment en train de s'organiser des rencontres, des fêtes, en se disant, je vais tout faire pour pas me faire attraper. Il y a cette espèce aussi de notion de tant qu'ils me pognent pas, ça me fera pas mal. Mais c'est pas ça la question. Alors, c'est pour ça que finalement, ce que vous nous dites, c'est on essaye de limiter les dégâts et on s'attarde beaucoup plus à l'organisation de l'après. Parce que les conséquences de se réunir quand même durant le temps des fêtes sont réelles. Après, bon, parce que, ne serait-ce que sur la question de la quarantaine avant, la quarantaine après, vous savez, la fameuse le 7 jours avant le 24, en théorie, ça fait partie de la donne, on n'en parle pas beaucoup, mais pour avoir droit de se rencontrer le 24, on demande aux gens de la même bulle, ou en tout cas de parce qu'on comprend que la bulle du 24, c'est votre bulle, plus des gens qui sont pas de votre bulle forcément, là. Donc, on leur demande à ces gens-là de pendant 7 jours, avoir aucun contact. Moi, petit sondage non scientifique autour de moi, il n'y a personne qui a l'intention de prendre 7 jours avant tout seul, avant de faire le party le 24, là.
Tout à fait, mais la réalité, c'est qu'on va demander surtout aux gens de minimiser de façon maximale leur contact et aussi de, si ils doivent être, par exemple, à l'extérieur, de porter un masque et aussi, il faut bien le souligner, de bien porter son masque. Parce que moi, je me promène et puis je vois des gens qui portent le masque sous les narines. Mm-hmm. C'est pas très, très utile. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui portent pas le masque ou qui, dès qu'ils sortent dehors, se mettent à s'enlever leur masque, etc. Donc, faut aussi bien porter son masque. Donc, si vous respectez tout ça, on va minimiser les impacts. Mais en effet, le risque zéro n'existe pas. C'est un risque calculé de la part du gouvernement. Et d'ailleurs, la situation, on le voit, n'est pas encore définitive. Elle va varier selon ce qui va arriver. C'est clair que là, on est à la 11e heure. Si le nombre de cas continue d'augmenter, s'il continue d'augmenter dans certaines régions, s'il continue d'augmenter chez les personnes plus âgées, si on a plus d'éclosions dans les CHSLD, il est clair que la situation va devenir encore beaucoup plus fragile. Ouais. Et il ne faut pas oublier que le problème majeur, c'est quand on hospitalise les gens malades, on les hospitalise pour longtemps. Donc, c'est une addition de cas.
Merci beaucoup, Dr. Calvez, d'avoir pris le temps de nous parler. Dr. Weiss est microbiologiste. Il est président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec. On va s'arrêter ici. Tout de suite après, je vais vous demander votre réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Ces conséquences de se réunir quand même durant le temps des fêtes sont bien réelles. En même temps, qu'est-ce qu'on décide? D'après vous, est-ce qu'on arrête de parler du 24 et puis qu'on se concentre sur l'après? Est-ce que c'est ça que vous aimeriez entendre de votre gouvernement? Vraiment, j'aimerais ça qu'on s'en jase ensemble ce matin. Appelez-moi, 514-790-9850. Et de l'extérieur, partout au Québec, peu importe la couleur de votre zone, vous nous appelez au 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Quelles seront les conséquences de se réunir quand même dans le temps des fêtes? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous estimez qu'on est rendu à un point où le gouvernement, le goût devrait changer de stratégie parce que là, on focus beaucoup sur le 24, sur comment on va se rencontrer, combien, de quelle façon. Et j'ai l'impression, enfin, d'après ce que je peux voir et entendre, que c'est pas clair que tout le monde va suivre ça. Alors, si on prend pour acquis qu'il y a quand même un grand nombre de gens, c'est ce que nous disait le Dr Weiss, qui ne respecteront pas les règles, de toute façon, on va se ramasser avec un surplus de cas dans les hôpitaux. Est-ce qu'on ne devrait pas tout de suite déjà, au lieu de mettre notre énergie sur l'organisation des soirées du 24 au 27, bien, organiser déjà l'après, le début d'une troisième vague? Je veux dire, c'est quelque chose qui se pose et ça serait maintenant là, qu'on devrait s'atteler à tout ça. Mélanie, vous êtes infirmière, vous êtes dans le réseau de la santé. Comment vous voyez les choses, vous, Mélanie? Merci de nous appeler d'abord.
Je vois les choses un peu contradictoires parce que le mois de janvier, février, ce sont des mois que situatoires dans le domaine de la santé, dans le milieu de la santé. Et puis, il y a l'épuisement professionnel, mm-hmm. les docteurs sont fatigués, les infirmières, les préposés, tout le monde est épuisé. D'abord, comme vous avez dit tout à l'heure, on est à 123% l'année passée. Ouais. Et puis là, vous rajoutez un contexte de pandémie, c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup à nous demander. Je pense que si on pouvait éviter Noël cette année, ce serait une meilleure décision.
Mmh. Donc, vous vous dites, le gouvernement devrait carrément dire aux Québécois, regardez, il n'y en a pas de party de Noël cette année.
Oui, ouais. Je trouve ça un peu irresponsable et pas prendre... Je trouve ça un peu irresponsable pour de vrai.
Ouais. Mais Dr Weiss, à cette question-là que je lui posais, disait en même temps, si c'est le dernier Noël de grand-papa, si ça fait 9 mois qu'on n'a pas vu grand-maman, si on est seul, c'est lourd à porter aussi. Et on parle beaucoup des dommages à la santé mentale d'un peu tout le monde là, depuis les derniers mois. Fait que ça aussi, c'est un enjeu, Mélanie.
Oui, c'est vrai que c'est un enjeu. Mais n'oubliez pas, les infirmiers, les médecins, nous sommes devant, en avant, on est là, en train de se battre contre une pandémie. D'abord, on demande un peu de compréhension des gens. Je sais que c'est difficile, je le sais, et je suis très consciente. Mais notre système de santé est déjà fragilisé. Il faut tenir compte de ça, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Mélanie, qui demande la collaboration de tout le monde, finalement. Jennifer est avec nous. Bonjour.
Bonjour, merci. Merci de me donner la parole. En fait, moi, ben, on a l'intention de fêter Noël. En fait, ce qu'on veut, c'est que nos parents puissent voir nos trois enfants. Mm-hmm. Les enfants s'ennuient de leurs grands-parents. Les grands-parents ont l'impression, j'ai une toute petite, là, de tout manquer leur développement. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est un non-sens, surtout le avant. Oui, le après, je l'ai dit, ce que l'intervenante venait de dire juste avant, là, l'infirmière, je suis tout à fait d'accord avec elle. Le problème, c'est que l'école arrête, mais le reste de la société n'arrête pas. Fait que rendu au 24 décembre, les gens vont être allés, ils vont avoir besoin de travailler dans les magasins, ils vont avoir été à préparer dans les restaurants. C'est pas vrai qu'on arrête le 16 là, de vivre. Là, les employeurs ne nous donnent pas congé le 17 au matin pour s'occuper des enfants de la maison, puis qu'on soit en quarantaine. Fait que c'est vraiment utopique de penser que les gens vont avoir fait 7 jours de quarantaine rester à la maison quand la société continue de fonctionner. Fait que c'est certain que le après va être difficile. Puis oui, j'en appelle aux gens. Nous, on n'a pas l'intention de sortir. On a la chance de travailler de la maison. Mais pour les autres, là, c'est pas comme ça que ça se passe dans la société là, en général. Fait que ça va être très difficile. Puis mais c'est ça, je pense à la santé mentale des grands-parents. Là, ils ont beau pas être en phase terminale à 85 ans. On ne sait pas quand ça s'arrête non plus pour personne.
C'est sûr. Merci, Jennifer. Merci beaucoup. Claire est avec nous. Bonjour, Claire.
Bonjour. Moi, on est chanceux. Tout est organisé. À partir du 16, il n'y a plus personne qui travaille à l'extérieur. Les enfants ne vont plus à l'école non plus. Mm-hmm. Alors, c'est à cette condition-là que j'accepte. Je reçois mes enfants. On va être 11. Mm-hmm. Trois bulles dans la maison pour le repas. Tout est organisé. Je suis vraiment chanceuse. Sinon, j'aurais peut-être pas accepté.
Ouais. Puis vous êtes sûre, vous leur faites confiance parce qu'il y a une partie de confiance là-dedans quand les gens disent
Non. Ils se sont. Il y en avait une là, qui avait un petit problème, puis c'est réglé. Elle va faire du télétravail.
Bon.
Alors, à partir de là, mes grands, pour les petites, il n'y a pas de danger, sont avertis que. À partir du 16, on ne sort plus de nos maisons.
OK. Bon, ben c'est bien.
On se revoit ici le 24, c'est tout. C'est le seul party, ma petite famille à moi, avec mes petites filles, mes enfants.
Bon, ben merci.
Remarquez aussi que si M. Legault refuse, vous savez très bien que les gens n'oublieront pas.
Ben oui, c'est ça. Moi, c'est clair, ça. Fait que partons de là. C'est un peu ça que ma réflexion. Merci, Claire. On a Alex qui nous appelle. Bonjour, Alex. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos réflexions, justement? Là?
Ben moi, depuis le jour 1, je me disais que de toute façon, j'allais le faire quand même avec mes parents et mon frère. Mm-hmm. Ce que je trouve dommage, c'est que le gouvernement est un petit peu hypocrite parce qu'on laisse les Costco, les Walmart, les IKEA, les Carrefour durant le Black Friday qui n'a aucune distanciation sociale avec des gens qui sont complètement inconnus, que je ne sais pas qui, est-ce que ces personnes-là font attention ou pas.
Ouais.
Mais de l'autre côté, on ne peut pas se rassembler une dizaine de personnes à la maison avec des gens de confiance, qu'on est 100% sûr qu'ils font leur maximum, se laver les mains, porter le masque. Mais moi, je ne sais pas qui se trouve au Carrefour de Laval. C'est pour ça que j'y vais même pas, là. Je trouve ça ridicule.
Fait que vous vous dites, dans le fond, moi, je vais. Vous allez utiliser le gros bon sens qui s'impose ici, puis dire, regardez, moi, je gère ça avec ma bulle, mes bulles, un peu comme Claire, finalement. Puis est-ce que vous allez être capable, par exemple, de faire le 7 jours de quarantaine avant, là, de s'assurer là, d'avoir le moins de contacts possible?
Peut-être pas 7 jours, mais 3, 4, 5 jours, assurément. Puis le après, ça, c'est possible. Le avant, ça va être un 4-5 jours.
D'accord. Ben merci, Alex. Merci beaucoup. J'ai Michel qui m'écrit que son père va fêter ses 70 ans le 24 décembre. Il est épileptique. Il a un cancer du foie. Et son père a dit à Michel, « Moi, là, je préfère mourir que de ne pas voir mes petites filles à Noël. » Et Michel me demande, « Qu'est-ce qu'on répond à ça? » Comment est-ce qu'on peut vivre avec cette lourdeur dans le cœur? Il y en a des cas comme ça, là, de gens qui sont... C'est peut-être leur dernier Noël, leur dernier temps des fêtes. Il y a des gens tout seuls aussi. Il y a beaucoup de monde seul au Québec. Là. C'est vrai que c'est un poids de leur dire, regarde, tu vas rester tout seul dans le temps des fêtes. Déjà que le temps des fêtes, c'est toujours comme une lourdeur parce qu'il suffit que tu aies vécu quelque chose de plate à ce moment-là, que on dirait que ça te suit. C'est difficile. Puis on dirait qu'il faut absolument avoir le bonheur scotché sur soi parce que c'est le temps des fêtes. Fait qu'il faut que tu sois de bonne humeur puis que tu fêtes de réjouissance, mais ça marche pas de même. Là. Le bonheur, si tu mets pas ça tout, c'est pas une lumière, là. C'est pas on and off comme on veut, là. Ça serait tellement facile si c'était ça. Le bonheur, c'est des petites choses. Puis dans les petites choses, ben, il y a le fait de se rencontrer avec des gens qu'on aime. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que ça serait peut-être pas mieux, de tant qu'à faire semblant, là, de mettre des règles sanitaires qui sont plus ou moins suivies, là, qui sont à géométrie variable selon chacun? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire, OK, ben, au lieu de passer notre temps là-dessus, là, regardons, là, on est à un mois d'un retour au travail de tout le monde début janvier. Comment on fait ça? Un mois, là, ça nous donne amplement le temps. Puis peut-être qu'ils le font là, dans leur meeting. J'espère. Vous me direz ce que vous en pensez après la pause en faisant le 514-790-9850. Appelez-moi un peu partout au Québec aussi. 1-866-790-9850. Puis c'est juste pour me dire comment vous allez. Ça me tente de vous jaser aussi. Ça me tente de vous entendre parce que je pense que ça fait partie de notre mission à nous de vous écouter en matinée. On aura Nima Machouf, épidémiologiste, qui va nous parler également après ceci. Restez là, tout le monde.
Arc-en-ciel. Coloré nous rappelle que ça va bien aller.
Quelles seront les conséquences de se réunir quand même durant le temps des fêtes? Est-ce qu'on acceptera de permettre des rencontres, considérant qu'en janvier, de toute façon, c'est clair qu'on va payer le prix? Qu'il y aura un début de troisième vague. Je veux dire, à peu près tout le monde, tous les experts le disent, sans compter le fait qu'en temps normal, sans COVID, ça déborde toujours dans les urgences. Quelle est la stratégie à choisir d'ici là? On a un mois pour s'en préoccuper. Sébastien, vous en pensez quoi, vous?
Bien, moi, je pense que nous, on travaille dans la construction. Fait qu'on termine le 16. Mm-hmm. Cette année, exceptionnellement, on va recommencer le 11 janvier. Moi, j'ai 3 enfants. Le 24 décembre, on fait ça en famille, fermé vraiment les 5. Dans le fond, moi, ma conjointe, mes 3 enfants. Mm-hmm. Puis le 25, on va voir mon frère, ma belle-sœur, dans le fond, avec son conjoint, ses 3 enfants. Donc, on va être environ 12-13 ensemble, mais c'est comme une petite bulle fermée ensemble. On va se voir pendant 2 jours. Puis ensuite de ça, on retourne chacun chez nous. On suit les consignes pas mal toujours. Puis je pense que en nous laissant une journée de répit comme ça pour voir d'autres mondes, les gens vont être plus conscients, peut-être ou plus contents de continuer à faire attention après un petit relâchement.
Mm-hmm. Mm-hmm. Exactement, ouais. Donc là, ce que vous dites, c'est là, on a le droit à 2 rassemblements pendant les 4 jours du 24 au 27, 10 ou 12. Est-ce que vous iriez jusqu'à 12? Vous diriez peut-être permettre plus de gens?
On va être 5 adultes, comme je vous disais. Là, on va être 2 couples, plus mon frère qui est seul, dans le fond, avec ses 2 enfants. Dans le fond, on a plus d'enfants que d'autres choses. Mm. Mais je crois que c'est plus au niveau des parents que je trouve ça triste, dans le fond. On fait attention surtout pour eux. Puis des fois, on voit qu'il y en a qui font pas attention, mais mes beaux-parents puis ma mère, dans le fond, sont comme confinés un petit peu. Fait que ça, c'est triste pour eux.
Oui, effectivement. Merci, Sébastien. Merci beaucoup. Nima Machouf est épidémiologiste. Elle travaille à la clinique du quartier latin. Bonjour, Madame Machouf.
Bonjour Isabelle.
Si je vous pose la question directement à vous, là, quelles seraient les conséquences de se réunir un peu trop et sans respect des règles durant le temps des fêtes?
Sans respect des règles, ça va être catastrophique. Mais avec le respect des règles, très strictement, peut-être que ça peut rester sous contrôle. Et ça, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens, trichent là-dessus, parce que c'est pas malin de tricher là-dessus. On est en train de payer un prix collectif extrêmement cher pour cette épidémie. Alors, si on veut se voir, il faut vraiment qu'on soit sûr d'être clean pour aller voir d'autres mondes.
Est-ce que ça vous paraît réaliste jusqu'à maintenant, ce qui est sur la table, c'est-à-dire, du 24 au 27, 2 rassemblements maximum, 10 maximum également. Ça, c'est ce que permet Québec pour le moment. Mais il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête là, par rapport aux 1000. Puis nous, on a comme réglé ça un peu la semaine dernière avec nos entrevues où on se faisait expliquer que finalement, la barre du 1000, ben il faut bien mettre une barre quelque part. Dr Arruda semble avoir mis à 1000 cas parce que ce qu'il veut, c'est baisser le nombre de cas. Je pense qu'on a tous compris pourquoi on doit baisser le nombre de cas. Ça veut dire qu'on baisse la propagation du virus. Mais en même temps, c'est comme devenu une espèce d'objectif irréaliste, Mme Machaut.
Oui, et si c'est parce que, comme vous venez de le dire, il faut mettre un barème quelque part. Et si on fait pas attention à ça, c'est les dégâts après qu'on sera pas capable de ramasser. S'il y a trop de cas en circulation dans la ville, étant donné que 50% des gens n'ont pas de symptômes, ne savent pas qu'ils sont infectés, et s'ils ont pas fait assez attention pour être certaine de ne pas être contaminé avant d'aller à une fête où la personne peut contaminer tout le monde, tous ceux qui sont là. Alors ça peut devenir très grave. C'est pour ça que moi, je pense que de la manière dont ça évolue pour l'instant, je pense qu'on n'aura pas de rassemblement.
Ah, vous pensez carrément que le gouvernement va en venir à annuler carrément Noël?
Je pense. On est dans les 1200, 1400, puis ça n'a pas l'air à aller vers la baisse. Si ça va vers une baisse, il y aurait moyen. Mais encore une fois, il faut vraiment qu'on soit responsable. Moi, j'ai bien aimé quand M. Legault a parlé de contrat moral. On ne veut pas que la police commence à faire les regarder pour voir combien de lumière il y a dans chaque maison, puis frapper aux portes et tout ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est de permettre un peu de jouissance à la population, tout en gardant les mesures de sécurité en place pour pas faire déborder le reste. Parce que c'est l'hôpital qui va souffrir, c'est nos âgés qui vont souffrir, c'est la société entière qui est en train de souffrir.
Ouais. Regarde, je voyais ce matin, là, selon la police de Montréal, qui reçoit à peu près une cinquantaine d'appels par jour là, de citoyens qui dénoncent leurs voisins ou en tout cas des gens qui voient puis qui respectent pas les mesures. Ça fait quand même pas mal de monde. Ils ont reçu plus de 365 appels de dénonciation, ne serait-ce que la semaine dernière. Puis ça, c'est le monde qui appelle. Là. C'est le monde qui prenne la peine de prendre le téléphone, d'attendre, d'expliquer. Bon. Pas tout le monde qui ferait ça, là. Donc c'est sans doute une minorité de gens qui sont assez à bout pour dire bon là ça y est là je me plains de mon voisin, il faut que ça finisse. Mais des gens qui me racontent là, que leur voisin, il y a eu de la visite, il y avait 4 voitures qui sont venues en fin de semaine, puis que ça fait des rassemblements, puis que c'est... bref, moi j'ai l'impression que de toute façon, même si on interdit, les gens vont le faire pareil, Madame Machaut.
Mais s'il y a des conséquences, si le gouvernement l'interdit, ben il va avoir des amendes, il va avoir des conséquences.
Moi, je pense que les amendes, ça dérange pas grand-chose. Avez-vous l'impression que ça influence?
Ouais, mais ça peut donner un message à certaines personnes. Mais l'important, c'est qu'il faut que collectivement, on soit conscient de ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. En ce contexte de pandémie grave.
Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Rappelez-le donc à nos auditeurs.
Ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'on a le droit de faire. Je veux dire, ce qu'on a le droit de faire, ça va être plus simple.
Ouais, okay.
Ce qu'on a le droit de faire, c'est de respecter la distance, de même si on veut, d'essayer de faire au maximum tous nos rassemblements à l'extérieur. Si on doit aller à l'intérieur, garder notre masque, gardons la distance avec les autres personnes du ménage. Soyons certains que si on a des symptômes ou si on a été en contact avec des personnes qui ont des symptômes, on ne sort nulle part. Moi, mon collègue de travail, à un moment donné, a eu un symptôme grippal. Mais on n'a pas le choix. On doit considérer que c'est peut-être de la COVID. Ouais. Alors, moi aussi, je rentre à la maison, je m'enferme dans une chambre, je ne peux pas contacter les autres membres de la famille, je ne peux pas aller m'asseoir à table pour manger avec eux. C'est un paquet de troubles pour tout le monde. Alors, il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que ça peut se répandre très facilement, très facilement. Mmh. Et les conséquences peuvent être graves.
Oui, puis d'ailleurs, vous avez en ce moment une collègue, je pense qu'il y a un patient aux soins intensifs qui a 25 ans, là.
Oui, c'est pas vrai que les gens qui se ramassent aux soins intensifs, c'est juste des personnes de 80 ans et plus. Ma collègue, elle disait, j'arrive pas à quel point les gens, j'ai l'impression qu'ils sont inconscients de tous les dégâts que la COVID crée. Ouais. son plus jeune patient, il a 25 ans et aux soins intensifs.
Ouais. Et puis là, je sortais ce matin pour voir où était le plus jeune patient à être mort de la COVID. Puis au Manitoba, c'est un petit garçon de 10 ans. Donc, bon, vous, les gens pourraient dire, bon, il y a toujours des exceptions, là, mais oui. En même temps, c'est un
jeunes
risque
meurent, réel. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et c'est à cause de ça que le gouvernement a permis l'ouverture des écoles. Mais sinon, il faut vraiment qu'on soit responsable. C'est ça, le mot, c'est ça, responsable. Ouais. On est potentiellement transmetteur d'un virus mortel,
ouais.
Potentiellement. Alors, il faut qu'on fasse tout pour ne pas le transmettre à qui que ce soit autour de nous.
Il y a Qatar qui m'écrit « Par respect pour les personnes qui sont sur la première ligne, on devrait tous faire un sacrifice. » Je trouve que ça résume bien là où on en est. Est-ce que vous pensez que chaque individu au Québec devrait se poser cette question et dire « Bon, regarde, mon sacrifice à moi, ça va être ça. » Êtes-vous d'accord qu'on en est rendu là ou pas encore?
Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Le personnel de santé, ils sont à bout. Ils sont vraiment fatigués. Ils sont vraiment fatigués. C'est pas facile. Quand dans un hôpital, on réalise que, ou dans un centre de soins, on réalise qu'une personne a eu un symptôme, vous vous imaginez combien de gens ils doivent surveiller, isoler, tester, paniquer. Non, le personnel de santé est en très, très mauvaise. Très mauvais état.
Nima Machouf, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Madame Machouf,
merci à vous, Isabelle.
Épidémiologiste. On s'arrête ici. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir, alors je vous donne la parole tout de suite après ceci. Là, on est en train de se demander, bon, ça serait quoi la meilleure stratégie finalement? Est-ce qu'on laisse un peu tomber toute la saga autour du temps des fêtes, puis on se prépare plutôt pour être capable de prendre le surplus de cas, puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'il va y en avoir encore plus que d'habitude, que le système de santé est déjà fragile, que les gens sont fatigués. Vous venez d'entendre Nima Machouf là-dessus. On sait que les gens de la première ligne sont fatigués. Il y a Mélanie qui, tout à l'heure, qui disait, on veut la collaboration du public. Chantal, comment vous voyez ça, vous?
Bonjour Isabelle. En fait, depuis le début de la pandémie, toute notre famille respecte énormément les règlements. Ce qui nous insulte, c'est de voir ceux qui ne les respectent pas. Mais pour les fêtes, c'est hors de question. Je reçois ma tante. Elle est en cancer progressif. Puis c'est hors de question qu'on ne la voit pas pour son dernier Noël. Puis ça, M. Legault, il n'en prend pas compte de ça.
Mais il en tient compte jusqu'à maintenant, Chantal, puisqu'il permet le rassemblement de 10 personnes. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il le permet.
Mais il change souvent d'idée. Fait qu'on est toujours sur le qui-vive à savoir, il va te changer d'idée encore.
Oui. Mm-hmm. Effectivement, ça vous inquiète. Ouais.
Ça m'inquiète énormément. On a perdu notre oncle, puis il est venu le dernier Noël chez nous. Puis là, c'est ma tante. Puis on ne s'est pas vu, Isabelle, depuis le début de la pandémie. Ça fait quasiment un an qu'on ne voit pas notre famille. Il faut qu'ils comprennent ça aussi.
Oui, tout à fait.
Puis je pense sérieusement que s'il l'interdit complètement, le Noël, ça va déraper. Ça va créer une frustration incroyable.
Je pense qu'il est conscient de ça, Chantal. C'est pour ça que ce matin, l'hypothèse que j'émettais, c'est pourquoi on n'arrête pas de dire que bon, les 1000, c'est important. Le docteur Arruda insiste beaucoup là-dessus. Donc, c'est ça un peu la réflexion que je voulais amener ce matin. C'est, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de nous mettre cet objectif-là qui nous semble, en tout cas, de jusqu'à maintenant, peut-être pas très réalisable. Oui, il faut le souhaiter que le nombre de cas baisse, mais mettons qu'on n'y arrive pas. On va-tu annuler Noël? Moi, je suis assez d'accord avec vous que les conséquences seraient probablement pires puis que les gens, de toute façon, ne respecteraient pas une interdiction du temps des fêtes. Alors, arrêtons de perdre l'énergie là-dessus puis essayons, au contraire, de déjà prévoir des munitions pour que quand ça va arriver, là, ce début de troisième vague en janvier, ben, qu'on soit prêt, là, puis qu'on donne peut-être organiser les choses avec les syndicats aussi. Les syndicats de la santé, on les entend pas tant que ça, je trouve, en ce moment. Enfin, c'est toute cette réflexion-là. Merci, Chantal. Irène est avec nous. Bonjour, Irène.
Bonjour. Ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Alors, nous, la seule chose qu'on va se permettre, ça va être une sortie le matin du 24. Chez ma fille avec ses deux enfants et son conjoint. Son conjoint, c'est une famille reconstituée, son conjoint a deux filles, mais elles ne seront pas là. Donc, c'est la seule sortie qu'on se permet. Et moi, je vais aller à l'hôpital dans un CHSLD voir maman qui a 101 ans, qui ça n'a vraiment pas été facile sa dernière année. Alors, c'est les deux seules sorties qu'on va se permettre, compte tenu que moi, j'ai 67 et mon mari, 73.
OK. Puis vous allez aller voir votre maman après la rencontre familiale?
Non, je vais y aller avant.
Avant, OK. Puis allez-vous faire une espèce de quarantaine avant?
On est toujours en quarantaine, ou presque. Les seules sorties qu'on se permet à date, c'est l'épicerie, puis la pharmacie, c'est tout. Puis
c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup.
Je vais voir maman.
Ouais, c'est déjà beaucoup.
Oui, mais quand même je demeure quand même en région.
Ouais.
Je suis en banlieue du village, alors j'ai très peu de contact avec d'autres gens.
Puis quand vous voyez votre mère, est-ce que vous portez un masque?
Oui, le masque et les lunettes.
Ouais.
Et c'est quand même très, très bien surveillé.
Okay.
Je vous avoue que j'aime pas nécessairement ça, y aller comme ça deux fois par semaine. Mais compte tenu de son âge avancé...
C'est important de garder le contact.
C'est important. Voilà. C'est important.
Merci beaucoup, Irène, de votre appel. Merci à tous les auditeurs d'avoir partagé un peu leur façon de faire. C'est sûr que ce dossier-là est tellement important. On aura l'occasion d'y revenir. On va s'arrêter ici tout de suite après les nouvelles. On poursuit. On va parler un petit peu des parents, de la DPJ et des pneus d'hiver. Restez là, tout le monde.